spécialement. D'habitude, c'est le groupe qui joue pour le groupe Collège et Carrière, les soirées paradoxes qui se font une fois par mois pendant l'année. Et on est vraiment heureux de les avoir eus avec nous ce matin et de nous conduire dans la louange. Juste pour vous dire aussi, le nouveau chant qu'ils nous ont montré ou enseigné, c'est une composition originale de Philippe et du groupe ensemble. Fait que c'est vraiment bien parce qu'ils produisent des nouveaux chants, puis c'est vraiment excellent. Eh bien oui, je reviens de vacances, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas été ici à l'église. On était en voyage dans les Maritimes et on est allé jusqu'aux îles de la Madeleine. Puis si vous avez l'occasion dans votre vie d'aller jusque-là, c'est encore au Québec, pour ceux qui savent pas. Les îles de la Madeleine, c'est le Québec. Je vous invite à y aller, c'est vraiment incroyable, c'est super beau. Puis vous irez regarder les photos Facebook qu'on a mis dans notre voyage, vous allez voir. Vous pourrez pas me contredire, c'est tellement beau. Eh bien, j'ai l'occasion encore une fois d'être devant vous pour qu'on puisse regarder ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais commencer tout de suite en vous disant mon sujet. On va parler d'un thème ce matin que vous connaissez probablement très bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour ceux qui deviennent membres ici de l'Église Le Sentier, chaque membre, lorsqu'il devient membre, s'engage les uns envers les autres. Il s'engage envers les autres membres, en fait, de l'Église, avec ce qu'on appelle une alliance. C'est une alliance, l'alliance qu'on a à notre Église, elle a 9 points. Et vraiment, tout ce que c'est comme des vœux de mariage. Mais c'est pas un mariage dans un couple, mais c'est l'engagement qu'on prend lorsqu'on décide de se joindre à la communauté de l'Église Le Sentier. Puis c'est les points avec lesquels on s'engage pour prendre soin les uns des autres, ainsi de suite, pour s'épauler, pour prier les uns pour les autres, pour faire la mission que Dieu nous a laissée ensemble. Puis un des articles de notre alliance, c'est l'article 9. C'est l'article suivant, je pense qu'on a, on l'a sur l'écran. L'article 9 nous dit « Nous nous engageons à remplir les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, suppliant les non-croyants d'être réconciliés avec Dieu. » Donc, chaque membre de notre Église qui est devenu membre s'est engagé à faire cela, n'est-ce pas? Et vous avez deviné que le thème de ce matin, même si l'Alliance nomme pas le mot, le thème de ce matin, c'est l'évangélisation. Même si le mot n'est pas utilisé, c'est vraiment ça de quoi l'Alliance parle ici. Puis ça va être notre sujet de ce matin. Puis vous savez quoi? J'ai réalisé que c'est pas un sujet très populaire. Les gens n'aiment pas beaucoup entendre parler de l'évangélisation, bien souvent. Les non-croyants n'aiment pas ça se faire solliciter, puis qu'on tente de les convertir, si vous voulez. Ils ont eu peut-être des mauvaises expériences de personnes qui ont essayé de faire ça à leur égard. Ils veulent rien savoir. Pour les croyants, eux, ben ils ont beaucoup de peur associée à l'évangélisation. Ils sont souvent pas plus intéressés que les non-croyants à en entendre parler, parce qu'eux aussi, peut-être, ont vécu des mauvaises expériences ou ils ont vécu des attentes déçues. Quand on devient chrétien, c'est le parcours que tous les chrétiens passent à travers ce parcours-là. On est tout feu, tout flamme pour Jésus. On veut parler de Jésus à tous ceux qui nous entourent. On est prêt à tout faire pour évangéliser. Puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, cette passion-là pour l'évangélisation s'estompe. Puis, je doute qu'une des raisons pourquoi ça s'estompe, c'est parce que, justement, on a été déçus par qu'est-ce qu'on s'attendait que c'était pour avoir comme résultat, peut-être. Il semble avoir une confusion quand vient le temps de savoir exactement c'est quoi l'évangélisation puis comment la pratiquer. Par exemple, qui cette semaine a fait ce que l'Alliance ici nous dit? Qui a supplié un non-croyant d'être réconcilié avec Dieu cette semaine? Qui a supplié un non-croyant? Je vois quelques mains levées, peut-être 2 ou 3. Supplier un non-croyant d'être réconcilié avec Dieu. Quelqu'un dirait, ben moi je suis un ambassadeur pour Christ, oui j'en suis un, mais je prie pour le salut des gens. Je leur dis jamais rien. Je prie pour que Dieu les sauve. En bout de ligne, on sait que c'est Dieu qui sauve les gens. Fait que tout ce que j'espère, c'est que Dieu va pas me donner l'occasion d'ouvrir la bouche parce que j'ai trop peur de le faire. Puis c'est Dieu qui sauve. Fait que moi, je prie pour eux puis je reste chez nous. Tu sais, la prière, c'est bon. Puis on va voir comme l'importance de la prière dans l'évangélisation. Mais on sait que juste prier pour les gens sans rien faire d'autre, c'est pas suffisant. Un autre va dire, moi, je suis un ambassadeur pour Christ. Je fais de l'action sociale. Je m'implique avec peut-être Vision Mondiale ou dans la soupe populaire ou Je m'implique avec les gens qui sont démunis. J'ai un cœur pour ces gens-là. Fait que moi, c'est comme ça que je suis un ambassadeur de Christ. Je fais rien d'autre, je fais juste ça. Encore une fois, je pense que c'est très bien de le faire, mais est-ce suffisant? Un autre encore va dire, moi, l'évangélisation, c'est le porte-à-porte. On voit ici la femme qui essaie d'empêcher quelqu'un de rentrer avec un papier, un crayon, puis ça dit évangile dessus. Pour certaines personnes, je suis sûr que c'est le cas ici, quand vous pensez évangélisation, vous pensez à du porte-à-porte. Plusieurs se réjouissent de ça, eux autres, c'est juste ça qu'ils veulent faire. Ils trippent, comme on dit en québécois, à faire du porte-à-porte. Pour d'autres, c'est la raison pourquoi ils font jamais d'évangélisation. Parce qu'il y a ceci, évangélisation, strictement à du porte-à-porte. Un autre encore dirait, moi, je mets une pancarte, puis je m'en vais sur la rue, puis je crie des vérités aux gens. Puis je sais que c'est... Ici, on a une image, je vais vous expliquer l'origine de cette image-là, vous n'allez pas en revenir. Mais on a un monsieur qui tient une grosse pancarte avec une tête de mort, puis en français, je vais vous le traduire, ça dit « Attention, Jésus vient soudainement pour tuer tout le monde, sauf les chrétiens nés de nouveau. » Puis je vous le promets, c'est pas photoshopé. En fait, ma belle-sœur, la sœur de ma femme Marie, à chaque année ou presque, font un voyage avec sa famille, ils font un voyage en Floride avec leur voiture. 30 heures de route, aller 30 heures, puis ils envoient des choses. Hein. Mais ça, c'est une des choses qu'ils ont vues sur le bord de la route en s'en allant en Floride, aux États-Unis, puis elle a pris une photo, puis elle me l'a envoyée. Ça fait plusieurs années déjà de ça, puis elle se retrouve toujours dans mes présentations de l'Évangile. Parce que je trouve ça juste incroyable de penser que quelqu'un ferait vraiment ça, tu sais. Puis on peut comprendre la sincérité de la personne. Quand vous pensez à ça, c'est vrai que Jésus vient, puis il va avoir un jugement. Tu sais, l'enfer existe, mais est-ce vraiment la bonne manière de le faire? Puis on est bon, en fait, pour mettre en opposition différentes approches sur l'évangélisation, puis pointer du doigt ceux qui font pas comme nous, qui ont une approche différente. Mais qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Est-ce que la Bible elle-même privilégie une approche versus une autre? Nous donne-t-elle des directives précises, en plus de nous dire l'importance d'évangéliser? Puis vous savez comme moi que la Bible, en fait, est très riche dans son enseignement sur l'évangélisation. Elle dit tellement de choses sur l'évangélisation qu'évidemment, on ne pourrait pas toutes les examiner ce matin. Mais voici quelques questions, un survol de questions sur l'évangélisation. Des choses qu'on peut se poser, mais même des choses dont la Bible parle à plusieurs reprises. C'est quoi évangéliser et l'évangélisation selon la Bible? Question très importante, peut-être une des plus importantes sur le sujet ou le thème de l'évangélisation. Comment pratiquer l'évangélisation? Y a-t-il des trucs, des choses à faire, des choses à ne pas faire? Hint, hint. Tu sais, le gars sur la rue avec une pancarte et une tête de mort, là. Y a-t-il une approche idéale ou presque miracle qui fonctionne à tout coup avec n'importe qui? Quelles sont les motivations pour évangéliser? Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui nous donne du fil à retordre dans notre évangélisation? Qui devrait évangéliser? Est-ce que c'est juste les professionnels de l'évangélisation ou ça devrait être tout le monde, par exemple? Qui devrait-on évangéliser? Comment mesurer l'efficacité de notre évangélisation? Et une question encore plus importante peut-être, devrait-on la mesurer, l'efficacité de notre évangélisation? D'autres questions comme comment avoir le courage ou l'assurance quand on évangélise? Une question reliée à nos peurs. Comment vaincre nos peurs justement? Où est la puissance de notre évangélisation? Est-ce que la puissance se trouve dans le message lui-même, le message de l'Évangile? Est-ce que la puissance se trouve dans la manière plutôt de communiquer le message, l'approche qu'on utilise? Ou est-ce que la puissance est dans le messager, dans sa manière de vivre le message? Vous voyez qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir ce matin, ces questions-là, évidemment, mais on va en choisir une, et c'est la question suivante qui est affichée à l'écran. C'est à quoi ressemble un témoin de Jésus efficace? À quoi ressemble un témoin de Jésus efficace? On va aller dans un texte du Nouveau Testament pour examiner cette question-là en profondeur ce matin, dans l'Épître aux Colossiens. Et dans cette épître-là, on va voir que Paul écrit à l'église de Colosse, ces chrétiens qui sont dans la ville de Colosse, et dans le texte qu'on va regarder ce matin, Paul va leur donner trois ingrédients à avoir, à cultiver dans leur vie afin d'être un témoin de Jésus efficace. Puis pour reprendre les mots de Bill Hybels, c'est un auteur, un pasteur d'église aux États-Unis, une grosse église, il a écrit plusieurs livres aussi, et il y a plusieurs années, il a écrit le livre « Comment devenir un chrétien contagieux ». En fait, il l'a écrit en anglais, et ça, c'est la traduction française. Et pour ceux qui veulent creuser le sujet de l'évangélisation, c'est un des meilleurs livres, très pratique, très concret, qui dit vraiment la vérité sur l'évangélisation aussi. Et je vous recommande fortement ce livre pour ceux qui veulent aller plus loin dans le domaine de l'évangélisation. Mais Bill Hybels, dans ce texte-là, va mettre en mots ce qu'on retrouve dans l'Épître aux Colossiens qu'on va examiner ensemble ce matin. Et lui, ce qu'il dit, c'est que pour être un témoin de Jésus efficace, pour avoir un impact maximal auprès des gens qui nous entourent, ça prend trois choses. Une vigueur maximale, une communication claire, puis une proximité optimale. Une vigueur maximale, une communication claire et une proximité optimale. Et si on insère ces choses-là dans nos vies, si on prend ces ingrédients-là dans nos vies, M. Hybels nous dit, c'est de cette manière-là qu'on va avoir un impact maximal en tant que témoin de Jésus, puis qu'on va être des témoins efficaces. Donc, je vous invite tout de suite à aller dans Colossiens au chapitre 4. Cette épître-là, c'est une épître que Paul a écrite alors qu'il était en prison. L'apôtre Paul est en prison, probablement à Rome, et il écrit une épître aux chrétiens qui sont dans la ville de Colosse afin de les mettre en garde contre des faux enseignements. Puis, un des grands sujets de l'Épître aux Colossiens, c'est Paul qui dit aux Colossiens l'importance de mettre l'Évangile au centre de leur vie chrétienne. Donc, que toute leur vie doit être centrée sur l'Évangile ou influencée par l'Évangile, si on veut. Paul désire placer Jésus-Christ au centre de la pratique chrétienne dans cette Épître-là. Puis, il va décrire les implications de l'Évangile pour les chrétiens. Qu'est-ce que l'Évangile devrait changer dans nos relations les uns avec les autres, dans nos vies personnelles? Puis à un moment donné, vers le chapitre 4, début du chapitre 4, il va expliquer qu'est-ce que l'Évangile devrait changer dans nos relations avec les non-croyants. Puis c'est exactement là qu'on veut prendre la lecture au début de Colossiens chapitre 4 au verset 2. Pour ceux qui voudraient aussi lire dans une Bible dans vos mains, là, je sais que le texte est à l'écran, mais on a des Bibles comme celle-là. Puis c'est la version que je vais utiliser ce matin, la version Second 21. Si vous n'avez pas une Bible ce matin avec vous puis que vous aimeriez en avoir une, on en a plusieurs copies à l'arrière. Vous pouvez juste lever votre main, puis un des placeurs va aller vous porter une Bible comme celle-ci. Donc, Colossiens chapitre 4, au verset 2, on lit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. » Et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ce passage nous donne les ingrédients dont j'ai parlé, qui vont te permettre d'avoir un impact maximal en tant que témoin de Jésus. Le premier ingrédient, on l'a vu, on va l'appeler la vigueur maximale. La vigueur maximale. Qu'est-ce qu'on veut dire au juste par vigueur maximale? Vigueur, ça a rapport avec le mot vie. C'est le fait d'être en vie. Et ici, quand on dit vigueur maximale, ce que j'entends par là, c'est vraiment la vie de Dieu en nous. C'est une vie spirituelle active et pas stagnante. Et lorsqu'on dit une vie spirituelle, il faut comprendre que c'est une vie qui est créée et motivée et permise par l'Esprit de Dieu. C'est une vie spirituelle parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous la donne. Donc, c'est une vie dirigée par l'Esprit de Dieu. Un témoin efficace, premièrement, doit avoir une vie dirigée par l'Esprit de Dieu. À quoi ressemble un témoin de Jésus qui a une vigueur maximale? Premièrement, c'est un témoin qui s'appuie sur la puissance de la prière. Un témoin qui a une vie caractérisée par la prière et l'action de grâce. On voit ça au verset 2 de Colossiens chapitre 4. Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Et c'est très simple, dans le fond, le mot persévérer, c'est l'idée de veiller, persévérer, de continuer, de pas relâcher. Si vous êtes comme moi, la prière, c'est une des choses qui est le plus difficile dans la vie chrétienne dans laquelle on doit persévérer. C'est une des choses que je trouve le plus difficile à persévérer. C'est dans la prière, d'avoir une vie de prière active. Mais ici, il faut faire attention parce qu'on ne parle pas nécessairement de prendre un 10 minutes ou 15 minutes ou même une heure par jour dans la prière. C'est bien de faire ça, c'est bien de prendre un temps dédié à chaque jour dans la prière. Mais ici, le sens du texte est plutôt le sens qu'on retrouve dans 1 Thessaloniciens 5, 17, où Paul dit aux Thessaloniciens, « Priez sans cesse ». C'est l'idée d'avoir une attitude de prière, en fait. C'est l'idée d'être constamment, d'avoir constamment cette ligne de communication ouverte avec notre Dieu. En tout moment de la journée, pouvoir prier à Dieu, penser à Dieu, pouvoir donner des requêtes, pouvoir louer le Seigneur à tout moment de la journée. C'est l'idée d'avoir cette attitude de prière tout au long du jour. Ça n'enlève pas le besoin qu'on a aussi l'importance de prendre un temps dédié à chaque jour ou plusieurs fois par semaine dans la prière. Mais ici, c'est vraiment le sens du texte. Et il y a l'idée de veiller sur ça. C'est quelque chose sur lequel il faut veiller parce que c'est si facile de se relâcher dans ce domaine-là. En même temps, ça dit non seulement qu'un témoin de Jésus est caractérisé par une vie de prière, mais aussi par l'action de grâce. Puis ça aussi, c'est pas l'idée qu'à chaque jour, il faut faire une liste de toutes les choses pour lesquelles on remercie le Seigneur. Mais c'est l'idée d'avoir une attitude de gratitude envers tout ce que le Seigneur est, tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il permet dans notre vie. Et c'est vraiment cette attitude d'action de grâce. Est-ce que ta vie à chaque jour est caractérisée par la joie dans le Seigneur, par la gratitude pour tout ce qu'il est, ou par tout le temps l'irritation, ou par toutes les choses que tu n'as pas et que tu aimerais avoir, et ainsi de suite. Donc, Paul nous dit de veiller à prier et d'avoir une vie caractérisée par la prière et l'action de grâce. Et un témoin de Jésus efficace, premièrement, qui a une vigueur maximale, c'est un témoin qui est caractérisé par la prière et l'action de grâce. Mais pas seulement ça. C'est un témoin qui aussi s'appuie sur la puissance de la prière pour la mission que Dieu lui donne d'accomplir. Un témoin qui s'appuie sur la puissance de la prière. Non seulement il y a une vie caractérisée par la prière fait partie de sa vie de tous les jours, mais il va intentionnellement dépendre de Dieu, s'appuyer sur Dieu à travers la prière. Puis on voit ça au verset 3 et 4, au verset 3 de Colossiens chapitre 4. Priez en même temps pour nous, l'apôtre Paul nous dit, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. L'apôtre Paul a une mission à accomplir. Il désire avoir une porte ouverte pour la parole, mais il sait que ça n'arrivera pas s'il n'y a pas plusieurs personnes qui sont avec lui dans la prière, suppliant Dieu d'ouvrir cette porte-là pour lui permettre d'annoncer le mystère de Christ, comme on lit au verset 4. Donc, Paul désirait que les chrétiens de Colosse prient pour lui, que Dieu ouvre une porte par la parole. C'est une guerre spirituelle et on a eu toute une série d'enseignements avec Normand Joseph sur la guerre spirituelle. Le dernier outil ou la dernière arme dans l'armure du chrétien dans Éphésiens chapitre 6, c'est quoi? C'est la prière, la dernière arme qui est listée. Dans Éphésiens chapitre 6, on l'a vu dans les semaines passées, c'est la prière. Combien la prière est importante. Si nous luttons dans une guerre spirituelle, combien nous avons besoin d'utiliser les armes et les outils spirituels que Dieu met à notre disposition. Et donc, combien on a besoin, lorsqu'on cherche à être un témoin efficace de Jésus, intentionnellement de prier pour cette œuvre-là, prier pour que le Seigneur nous donne des occasions. Prier pour que le Seigneur ouvre une porte, comme pour l'apôtre Paul, à notre parole. Donc, un témoin de Jésus, c'est un témoin qui a une vigueur maximale, un témoin de Jésus efficace. C'est un témoin de Jésus qui est caractérisé par la prière et l'action de grâce. Ça fait partie de notre vie spirituelle active. Un témoin qui s'appuie sur la puissance de la prière. Il a une mission à accomplir, puis qui sait qu'il ne peut pas l'accomplir sans la puissance de Dieu à l'œuvre. À laquelle on fait appel par la prière. Mais c'est aussi un témoin qui se conduit sagement. Un témoin de Jésus qui a une vigueur maximale, c'est un témoin dont la vie est dirigée par l'Esprit de Dieu. Donc, dans sa conduite, il y a une sagesse qui est amenée là par l'Esprit de Dieu. Et on voit ça au verset 5 de Colossiens chapitre 4, où on lit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Et l'idée ici de vivre notre vie, une conduite sage, se conduire sagement, c'est vraiment l'idée de vivre l'Évangile d'une manière évidente devant les non-croyants. C'est une conduite différente de celle du monde, de celle de la conduite de ceux qui nous entourent. C'est une conduite qui reflète la sagesse qu'on trouve en Christ. Malheureusement, on n'aura pas le temps, mais il y a plusieurs passages dans Colossiens, dans l'Épître aux Colossiens, à chaque chapitre, qui nous parle de cette conduite sage-là. Et juste, on va faire un survol, mais au verset 1 chapitre 1, verset 10, Paul dit qu'il prie pour les Colossiens afin qu'ils puissent marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Donc, marcher d'une manière digne, c'est l'idée d'avoir une conduite digne du Seigneur. Marcher, c'est l'idée de la conduite, c'est comment on se conduit, comment on se comporte. En même temps, au chapitre 2, verset 6 et 7, Paul dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez reçu, marchez en lui. » Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Même au chapitre 3, au verset 1, l'apôtre Paul dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non ce qui est sur la terre. » Donc, pour tous ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, l'Évangile doit faire une différence dans votre vie. Ça doit être évident pour ceux qui vous entourent que vous êtes différents, que vous vous conduisez différemment de ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de se conduire sagement. Les témoins de Jésus efficaces qui ont une vigueur spirituelle se conduisent sagement. Et à la fin du chapitre 3, verset 17, Paul dit, « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » C'est vraiment le sens d'une conduite sage. Le témoin de Jésus qui veut être efficace doit avoir une vigueur maximale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret pour chacun d'entre nous ici? Bien, ici, il y a une question intéressante. Est-ce que vous suscitez l'intérêt des non-croyants? Est-ce que vous provoquez plutôt la curiosité des gens qui vous entourent? Ou est-ce que vous provoquez le dégoût par votre conduite? Est-ce que vous, dans votre conduite, les gens peuvent se rendre compte que vous êtes un enfant de Dieu? Que vous êtes saint, que vous n'êtes pas comme les autres. Dans la vraie vie, quels exemples qu'on pourrait donner qui pourraient nous aider à mettre le doigt sur des choses? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans nos vies d'avoir cette vigueur maximale ou cette conduite sage? Mais si on retourne à Colossiens chapitre 3, entre les versets 1 et 17 qu'on a vus, il y a toute une série d'exhortations que Paul donne qui expliquent vraiment clairement et concrètement et pratiquement ce que ça veut dire de vivre l'Évangile au quotidien. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai sur la slide ici deux colonnes et l'apôtre Paul va dire, en fin de compte, va résumer la chose ainsi. Si vous voulez avoir une vigueur maximale et vivre l'Évangile à fond dans votre vie, il y a deux choses que vous devez faire. Ça se résume à faire deux choses. Rejeter la vieille nature, cette nature pécheresse, et revêtir la nature nouvelle qui a été créée par l'Esprit de Dieu en vous. C'est les deux choses que vous devez faire. Et je me souviens, on a déjà vu en détail ces choses-là, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais la vie de l'Esprit de Dieu en vous, l'Évangile vécu au quotidien, ça se résume à rejeter la vieille nature et à revêtir la nature nouvelle, à chaque jour de votre vie. Par exemple, l'apôtre Paul, dans le chapitre 3, va parler de l'immoralité sexuelle, combien on a besoin de rejeter l'immoralité sexuelle. Et sous toutes ses formes, ça peut être la convoitise ou la pornographie, mais ça peut être même pour les femmes, l'idée de vouloir atteindre un standard de beauté qui est inatteignable. Ça aussi, ça peut faire partie de ce que ça veut dire de rejeter l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire de refuser de faire cela. Le matérialisme, évidemment, c'est nous guette tous et toujours et à chaque jour. Et la personne qui pense avoir vaincu le matérialisme se met en grand danger tout de suite de retomber dedans. Au prochain pas qu'il prend. C'est tellement partout autour de nous et c'est pas quelque chose qu'on a tendance à remarquer dans nos vies. Mais combien on peut s'attacher aux choses terrestres, aux choses passagères. Et l'Esprit de Dieu nous invite à rejeter ces choses-là, à rejeter ces choses qui appartiennent à la vieille nature. Désir de vengeance et de calomnie. Je sais pas si c'est comme moi, mais dans votre milieu de travail, ça se peut qu'il y a beaucoup de personnes qui cultivent la vengeance, ou beaucoup de personnes qui parlent dans le dos de d'autres personnes, des employés ou peut-être même le patron. Pour ceux qui sont à l'école, ça peut être parler dans le dos d'un professeur qu'on n'aime pas beaucoup ou d'un étudiant avec qui on a de la difficulté à s'entendre. Et la parole de Dieu nous invite à rejeter la vieille nature, rejeter cette calomnie-là. Et quelle différence vous pouvez avoir si vous choisissez de ne pas embarquer dans la calomnie? De dire, moi, je ne vais pas aller là avec vous. Dans un contexte où, je sais pas, moi, ça peut être un dîner d'employés ensemble ou dans un travail, dans une équipe de travail à votre travail ou il commence à avoir de la calomnie. La différence que ça peut faire est incroyable. Si vous décidez de vous tenir debout à cause de vos convictions, à cause de cette vigueur maximale qui est en vous, ça peut susciter beaucoup de curiosité de la part des non-croyants. Maintenant, revêtez la nouvelle nature, le pardon au travail, c'est aussi puissant pour susciter des questions, puis l'intérêt, puis la curiosité des non-croyants. Être prêt à pardonner un employeur qui vous met de côté ou qui vous maltraite ou qui vous a trahi, ou un collègue de travail parce qu'il y a beaucoup de compétition. Être prêt à demander pardon quand vous réalisez que vous avez fait une erreur. C'est quelque chose qu'on voit rarement dans nos milieux de travail. C'est quelque chose qu'on voit rarement dans notre vie. Les gens sont pas faciles ou sont pas vite à pardonner ou à demander pardon. Et ça peut avoir un impact vraiment grand pour le royaume de Dieu si vous êtes prêt à revêtir cette nouvelle nature en pardonnant ou en demandant pardon. L'honnêteté au quotidien. Moi, juste pendant mes vacances ou dans les derniers 2 mois, j'ai accroché au moins 2 ou 3 voitures avec ma voiture. En passant, je suis stationné juste ici, là, dans le stationnement, là. J'étais aux promenades, j'ai reculé au Costco, j'ai pas vu le taux qui est en arrière de moi, bang! Dans le stationnement. Fait que je sors dehors, il y avait personne. C'est tellement facile de juste aller dans ta voiture puis t'en aller. Fait que j'ai dit non, c'est pas correct. Fait que j'ai sorti un papier, j'ai mis mon nom, mon numéro de téléphone, j'ai dit j'ai frappé votre pare-choc arrière, j'étais pour dire votre bumper, j'ai frappé votre pare-choc arrière. Il y avait pas grand-chose, mais je me suis dit, tu sais, au cas, j'ai laissé ça sur le pare-brise, puis savez-vous quoi, j'ai jamais eu d'appel. J'imagine la personne, ça l'a pas dérangé, ou peut-être le papier s'est envolé au vent, là. Mais j'ai mis le papier sous l'essuie-glace, puis il était bien fixé. Je dis pas que c'est ça que je veux qu'il soit arrivé, mais c'est tellement facile. Mais vous savez, il y a des gens qui étaient là dans le Costco qui m'ont vu faire. Il y a personne qui est venu me voir pour me dire, mais non, fais pas ça, pourquoi tu fais ça? Puis j'ai jamais eu l'occasion de parler comme un chrétien, de témoigner en tant que Jésus, mais l'honnêteté au quotidien, c'est tellement facile de pas être honnête. Puis ça peut tellement faire une différence quand on choisit de l'être aussi. L'humilité dans nos relations. Mon père a enseigné sur l'humilité dimanche passé. J'étais pas là malheureusement, mais tellement important et ça peut tellement faire une différence. En somme, la vigueur de ta vie spirituelle est autant un message que le message que tu annonces avec ta bouche. Et vouloir être témoin de Jésus dans cette guerre spirituelle dans laquelle on est impliqué, c'est chercher à arracher aux mains de Satan et du monde les âmes de ceux qui sont encore sous leur influence. Alors, qu'est-ce que tu as vraiment besoin de faire pour être un témoin de Jésus efficace dans ce contexte-là? La première chose, c'est dépendre de la puissance de l'Esprit de Dieu dans ton témoignage de vie, dans ta conduite, une vigueur maximale. Et voilà, c'est fini. On a tout dit. On peut s'en aller. Il est déjà 11h08. Mais pas exactement, pas tout à fait. Il y en a qui aimeraient ça que ça se termine là. Conduis-toi sagement. Sois sûr d'avoir un témoignage de vie qui est conforme à l'Évangile. Puis ça s'arrête là. Mais le texte devant nous est vraiment clair, puis on voit clairement que ça s'arrête pas là. Un jour ou l'autre, il va falloir ouvrir la bouche. Désolé pour tous ceux qui sont vraiment timides, puis qui ont vraiment peur quand les occasions sont là d'ouvrir la bouche, puis qui n'osent pas les prendre. Mais vraiment, juste notre conduite ne sera pas suffisante. À un moment donné, il va falloir dire le message. Donc oui, on a besoin de vivre l'Évangile, mais aussi il faut dire clairement l'Évangile. Et c'est le deuxième ingrédient. Pour être un témoin de Jésus efficace, ça prend une vigueur maximale, mais ça prend aussi une communication claire. Et qu'est-ce qu'on communique? On communique l'Évangile. Et on voit ça au chapitre 4, verset 3, où Paul dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer quoi? Le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Fait qu'est-ce qu'on doit annoncer et communiquer clairement? L'apôtre Paul nous dit, c'est le mystère de Christ. C'est un peu flou. Ça l'aide pas bien à dire c'est quoi au juste. Qu'est-ce que le mystère de Christ? En fait, juste l'épître aux Colossiens va utiliser le mot mystère 2 autres fois. Et ça nous aide à comprendre un peu qu'est-ce que Paul veut dire par le mystère de Christ. Au chapitre 1, verset 26, Paul dit qu'il a été fait ministre, au verset 25, selon la charge que Dieu lui a donnée, afin qu'il annonce pleinement la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit annoncer? Au verset 26, c'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Quel est donc ce mystère? Paul nous dit, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère de Christ, c'est Christ lui-même qui est en nous et qui est l'espérance de la gloire. C'est Christ qui a laissé son ciel, qui est venu sur la terre, qui a accompli la rédemption sur la croix, qui est ressuscité d'entre les morts et qui maintenant nous dit qu'on va ressusciter un jour si nous avons placé notre foi en lui et qui dit qu'il habite maintenant en nous. Au chapitre 2, Paul va encore une fois parler du mystère. Et il dit, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. » Il dit, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître quoi? Le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Donc, le mystère, c'est l'Évangile. C'est Christ lui-même qui est venu sur terre et qui a révélé ce qui était caché auparavant. Il ne faut pas confondre ici le sens de mystère. Ce n'est pas comme, un meurtre mystère, tu sais. Ce n'est pas comme une enquête. Là, on essaie de découvrir quelque chose, c'est mystérieux. On ne sait pas qui a fait le crime. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui sont initiés, pour ceux que Dieu a choisis, il leur a donné la connaissance du mystère. Et c'est seulement eux qui ont le mystère, qui ont l'explication du mystère. Non, c'est pas ce sens-là de mystère. Le sens de mystère, ici, c'est l'idée de quelque chose qui a été caché auparavant et qui maintenant est révélé. Puis c'est Christ lui-même. C'est Christ qui n'était pas encore venu sur terre, mais lorsqu'il est venu, il nous a montré qui était Dieu. Jésus a dit à un de ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle du mystère. Dans le fond, c'est l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ. Et l'Évangile, ce que c'est la bonne nouvelle de tout ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ pour nous racheter, pour nous sauver et pour restaurer toute la création. C'est ça qu'on doit annoncer. Et donc, un témoin de Jésus efficace, c'est un témoin de Jésus qui a une communication claire, qui annonce l'Évangile. Mais pas seulement qui annonce l'Évangile. Le texte nous dit que ça doit être un témoin qui annonce clairement l'Évangile. Parce qu'un témoin qui annonce l'Évangile tout croche, puis qu'après l'avoir annoncé, personne ne sait de quoi il parle, ça ne sert à rien. Donc le texte nous dit, ici au verset 4, que Paul prie, il dit aux Colossiens de prier pour lui, afin qu'il puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Parce que Dieu lui a demandé d'en parler ainsi, mais aussi le faire connaître d'une manière claire, pas n'importe comment, mais comme il doit en parler pour que ça soit bien reçu. C'est vraiment le sens qu'on a ici dans le texte. Donc, si on veut communiquer l'Évangile clairement, il faut savoir qu'est-ce que l'Évangile. On a vu la définition, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de tout ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ pour nous racheter, pour nous sauver et pour restaurer toute la création. Mais vous savez quoi? Si on faisait un test ce matin, en fait, on fait ça quand on fait le cours du baptême avec ceux qui désirent se faire baptiser, ils viennent de mettre leur confiance en Jésus, ils viennent de comprendre l'Évangile, on leur enseigne au sujet du baptême l'importance de se faire baptiser publiquement, de prendre position pour Jésus, que signifie le baptême, et ainsi de suite. Puis à la fin du cours, quand on veut savoir s'ils ont vraiment bien compris l'Évangile, on leur demande, comment expliquerais-tu l'Évangile à ton voisin ou à ton ami à l'école? On leur demande de l'écrire. Dis-nous, qu'est-ce que tu dirais à ton ami ou à ton voisin? Puis vous savez, c'est intéressant parce que des fois, on voit qu'il y a une bonne compréhension, mais il manque certains éléments. Puis si je vous posais la même question ce matin, que dirais-tu à ton voisin ou à ton ami s'il te demandait, mais c'est quoi l'Évangile? Ça révélerait peut-être vous seriez capable d'y dire comme ça, mais peut-être que vous auriez peut-être une difficulté. Oui, justement, qu'est-ce que je dirais? Puis dans quel ordre est-ce que je dirais les choses? En fait, est-ce que c'est important de le dire dans un certain ordre? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit absolument inclure, des choses qu'on n'est pas obligé de dire? Qu'est-ce qui est important de dire ou qu'est-ce qui n'est pas important de dire? Puis j'aimerais juste vous dire, vous donner un exemple de qu'est-ce que ça pourrait être. L'Évangile simplifié. L'Évangile simplifié en 5 points. 5 couleurs. Vous avez déjà entendu parler du bracelet de l'Évangile à 5 couleurs. On va commencer par le jaune, ça va être très simple. Et moi, je trouve que c'est une manière très claire et très simple de communiquer l'Évangile. Une fois qu'on l'a appris, ça s'insère très bien dans une discussion naturelle au travail ou à plage ou n'importe qui, à un party de famille. On peut en parler de manière très naturelle quand on comprend que l'Évangile peut être comme résumé ou simplifié dans ces cinq mouvements-là ou cinq points-là. Premièrement, ça commence avec Dieu. Dieu a toujours existé, c'est un Dieu d'amour, un Dieu saint, et il nous a créés à son image. C'est un Dieu juste, un Dieu qui désire qu'on l'adore et qu'on le glorifie avec toutes nos vies. Il nous a créés à son image pour qu'on l'adore et que toutes nos vies soient centrées sur lui. Et vous savez, le deuxième point, vous savez comme moi peut-être, c'est que l'homme a choisi de ne pas faire ça, de ne pas glorifier Dieu. L'homme a choisi de désobéir Dieu. Donc Dieu nous a créés pour le glorifier, mais nous, on a choisi de ne pas glorifier, de glorifier quelque chose d'autre au lieu de glorifier Dieu, de mettre notre joie dans autre chose que Dieu, de mettre notre espoir suprême dans autre chose que Dieu. Et ça s'appelle le péché, qui est représenté par la couleur noire. Et Dieu nous dit que parce que nous avons tous péché, nous sommes séparés de Dieu. Et si rien n'était fait, si l'histoire s'arrêtait là, nous serions tous condamnés à passer l'éternité sans Dieu, loin de lui. Mais Dieu nous aime tellement, et il est tellement juste qu'il ne pouvait pas nous laisser condamner de cette manière-là à cause de son grand amour pour nous. Et le prochain mouvement, c'est Jésus. Dieu, homme, Jésus. Dieu est intervenu à cause de son amour pour nous. Et à cause de sa gloire aussi. Il ne voulait pas que sa création, ceux qu'il avait faits à son image, soient perdus pour toujours. Il voulait qu'on puisse le glorifier pour l'éternité. Et le seul moyen que c'était possible, c'est qu'il vienne lui-même dans la personne de Jésus-Christ, qu'il donne sa vie à la croix, qu'il ressuscite d'entre les morts en ayant la victoire sur la mort. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a donné sa vie pour moi et pour toi afin que nos péchés soient pardonnés. Il a pris sur lui nos péchés. Et il nous donne sa justice, son casier judiciaire qui est vierge, qui n'a aucune faute dessus. Et il prend notre casier judiciaire qui est complètement plein de péchés et d'erreurs et de problèmes. Le quatrième mouvement, c'est que pour ceux qui répondent à l'appel de Jésus, ils seront purifiés, pardonnés. C'est représenté par la couleur blanc. Dieu, homme, Jésus, réponse. Pourquoi réponse? C'est parce que c'est beau de savoir que Dieu nous a créés, qu'il existe et qu'il nous a créés pour le glorifier. C'est aussi beau d'avoir l'information qu'on a désobéi puis qu'on est condamné. C'est même très bien de savoir que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Mais si on fait rien avec ça, si on ne répond pas à cet appel de Dieu, on ne sera pas sauvé. Le salut n'est pas universel pour tout le monde. La Bible nous encourage à croire, à se repentir de nos péchés. Et c'est la réponse que Dieu désire que nous ayons, c'est se repentir de nos péchés et croire que Dieu est venu en Jésus-Christ pour nous pardonner. C'est de faire appel à lui, c'est de compter sur Jésus, de croire qu'il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé que la personne de Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Et un cinquième point qui est représenté par la couleur verte, c'est le point de l'Église. Et Dieu, homme, Jésus, réponse, Église, pour moi, représente vraiment l'Évangile simplifié, ou si vous voulez, l'Évangile en cinq points. Pourquoi l'Église? C'est parce que Dieu ne veut pas nous sauver individuellement et nous laisser comme flotter dans le monde sans relation les uns aux autres. Le plan de Dieu, c'est de former l'Église. Jésus lui-même a dit, je bâtirai mon Église. C'est pas je vais sauver des individus qui vont essayer de vivre leur vie à la gloire de Dieu toute seule. Non, l'Église fait partie du plan de Dieu. Et l'Évangile, Dieu a racheté des hommes et des femmes pour les mettre ensemble dans une communauté qu'on appelle l'Église. Et un jour, nous serons, toute cette Église-là, cette communauté-là sera rassemblée autour de Dieu. Donc à date, on a vu qu'être un témoin efficace de Jésus requiert une vigueur spirituelle maximale et une communication claire de l'Évangile. Et voici donc une communication que vous pourriez utiliser, Dieu, homme, Jésus, réponse, Église. Si vous êtes assez familier avec, vous pourriez l'utiliser dans vos discussions avec les gens qui sont autour de vous. Mais même le fait d'avoir une communication claire, et on va juste sauter quelques points là dans notre texte, parce que le temps avance. Même le fait d'avoir une communication claire et une vigueur maximale, est-ce suffisant pour être un témoin de Jésus efficace? Moi, je dirais qu'il manque encore quelque chose. Une vie de l'Esprit de Dieu en nous qui est vraiment incroyable, une communication claire, savoir communiquer clairement l'Évangile, c'est très important. Mais si on n'est pas en contact avec les gens autour de nous, si on n'a pas de relation avec les gens autour de nous, ça va aller nulle part. Et donc, le troisième point, c'est la proximité optimale. Donc, un témoin de Jésus efficace, c'est quelqu'un qui cultive une proximité avec les gens autour de lui, qui a des relations avec des non-croyants, avec les gens du dehors. Quand le texte de Colossiens chapitre 4 nous dit de se conduire avec sagesse envers ceux du dehors, ce à quoi ça fait référence, c'est les gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont autour de nous. Donc, un témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui a des relations avec les gens autour de nous. Vous savez, quelque chose, moi, qui me surprend beaucoup, c'est que quand on parle d'évangélisation, on est en train de dire que notre but ultime, quand on pense, par exemple, à un membre de notre famille qui n'est pas encore chrétien, notre désir pour lui, c'est qu'il devienne chrétien. En fait, c'est un désir qui développe une relation personnelle avec Dieu. C'est ça notre plus grand désir pour un voisin qui n'est pas encore sauvé, c'est qu'il puisse un jour développer une relation personnelle avec Dieu. Puis ça me surprend de voir beaucoup de personnes qui sont même pas prêtes de développer une relation personnelle avec leur voisin ou avec un collègue de travail ou avec un ami, alors que leur plus grand désir pour eux, c'est qu'il y ait une relation personnelle avec Dieu. C'est un peu contradictoire. On n'est pas prêt à avoir une relation personnelle avec quelqu'un, mais ce qu'on veut le plus pour cette personne-là, c'est qu'il y ait une relation personnelle avec Dieu. Vous voyez, donc c'est absolument primordial, ça fait pas de sens de pas développer de relation avec les gens qui nous entourent si ce qu'on veut pour eux, la plus grande chose qu'on veut pour eux, c'est qu'ils puissent avoir une relation avec Dieu. Si c'est ça qu'on veut, on doit être prêt aussi à développer une relation puis entretenir cette relation-là. Non seulement ça, mais un témoin de Jésus qui cultive cette proximité avec les non-croyants autour de lui, c'est aussi un témoin qui va s'adapter à ceux qui parlent. Hein? Au verset 6 de Colossiens 4, on lit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, on n'a pas à dire nécessairement les mêmes choses à tout le monde. À chaque personne, on va devoir s'adapter, poser des questions pour apprendre à connaître la personne, où elle en est dans son cheminement spirituel, puis adapter nos paroles avec la situation de cette personne-là. En somme, on a vu qu'un témoin de Jésus efficace, qui veut avoir un impact maximal, c'est un témoin qui a une vigueur maximale, qui a une communication claire et une proximité optimale. C'est de cette manière-là qu'on peut vraiment espérer avoir un impact maximal. Mais quand on dit un témoin de Jésus efficace, il faut faire attention à quelque chose. Et j'aimerais terminer avec ça. Il y a comme une nuance à apporter. Vous voyez, en bout de ligne, il n'y a pas vraiment de garantie de résultat ou d'efficacité. Il y a seulement la foi et l'espérance en un Dieu vivant et puissant qui peut ouvrir les portes au-devant de nous. Le mot « efficace », j'ai décidé de l'utiliser intentionnellement, mais il faut le qualifier, si vous voulez, ou le nuancer. L'efficacité n'implique pas nécessairement des résultats apparents. Un sème, la parole dit, l'autre arrose, mais finalement, c'est Dieu qui fait croître. En bout de ligne, l'efficacité de notre témoignage ne dépend pas seulement d'avoir la vigueur maximale, la communication claire, puis la proximité optimale. Ça va vraiment dépendre de Dieu qui va utiliser ces choses-là avec toute sa puissance. Malgré tout, Dieu désire qu'on soit des témoins efficaces, le plus efficaces possible. Ça nous déresponsabilise pas le fait que Dieu est souverain et c'est lui, en bout de ligne, qui fait le miracle de la conversion. En même temps, quand on voit pas les résultats, il faut pas être découragé nécessairement. Parce que c'est pas parce qu'on voit pas les résultats qu'il n'y a pas de résultats. Il peut avoir des résultats même si on les voit pas, vous voyez. Et j'aimerais vous laisser avec cette citation de William Carey, un missionnaire, un grand missionnaire dans les siècles passés qui a dit « Attendez-vous à de grandes choses de Dieu. » C'est Dieu qui va agir. C'est Dieu dans sa souveraineté qui va faire le travail, qui va faire le miracle de conversion. Mais en même temps, William Carey dit « tenter de grandes choses pour Dieu aussi. C'est pas parce que Dieu fait ce travail-là que nous, ça nous déresponsabilise. Et on doit chercher à vraiment être le plus grand témoin efficace de Dieu et à cultiver ces éléments-là dans notre vie. J'aimerais juste terminer avec cette histoire qui illustre bien pour moi comment Dieu est souverain sur toute cette question de l'évangélisation et de l'efficacité de notre témoignage. Mes beaux-parents sont ici ce matin, Jean-Claude et André. En fait, c'est les parents de Marie. Et ils ont déménagé dans la région au début du mois de juillet. Fait que je suis vraiment content. Ils ont décidé de se joindre à l'église. Puis on est vraiment heureux de les avoir avec nous dans la région. Mais ils m'ont déjà raconté leur histoire de conversion. Puis pour moi, c'est une histoire qui illustre très bien comment Dieu est souverain. Dans les années fin 60, début 70, je pense, ils habitaient à Montréal. Ils étaient plutôt des hippies. Mon beau-père, dans ce temps-là, avait tout un look, puis aussi faisait toutes sortes de choses intéressantes. Pareil comme les hippies faisaient dans ce temps-là. Puis il habitait dans un bloc appartement avec plusieurs personnes dans le bloc. Il y avait des appartements un peu partout, mais leurs voisins dans le bloc appartement, c'était aussi des hippies, mais des hippies un peu différents. C'était des Jesus freaks. C'était vraiment des gens qui en Californie, c'est des Québécois, je pense, c'était peut-être des anglophones, là, je sais pas, mais c'était des gens qui, en Californie, étaient devenus des Jesus freaks. Puis finalement, les Jesus freaks de ce temps-là, c'était des hippies qui étaient devenus chrétiens, mais qui étaient encore dans le style hippie, qui vivaient encore comme des hippies, mais qui étaient devenus chrétiens. Puis ces gens-là avaient essayé de témoigner à mes beaux-parents au début de leur relation, mais mon beau-père me racontait comment lui, il voulait rien savoir, puis tout ce qu'il faisait, c'est se moquer d'eux autres. Une fois, il me racontait qu'il se prenait avec une échelle, puis il avait vu un des Jesus freaks, puis il avait dit « Hey, gars, j'ai une échelle, tu pourrais monter au ciel si tu veux ». Ils n'arrêtaient pas de se moquer d'eux autres, ils étaient vraiment pas corrects. Tellement qu'ils les aimaient pas, ces gens-là avaient des rencontres de prière dans l'appartement juste à côté. Puis mon beau-père, son gros fun pendant les rencontres de prière, c'était de mettre ses grosses caisses sonores collées sur le mur, ses gros speakers, puis de mettre Led Zeppelin à fond la caisse là-dedans, pendant les rencontres de prière. Mais un jour, Jean-Claude et André ont commencé à lire des livres un peu sur l'occultisme. Un auteur s'appelle Rampa en particulier, qui écrivait des livres sur la réincarnation, sur plein de choses, sur des choses occultes. Puis un jour, ils ont même regardé le film, peut-être que vous savez c'est quoi, Pray for Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, c'est un film qui a été fait dans les années 68, où cette femme-là, dans le fond, se fait mettre enceinte par Satan lui-même et va avoir un bébé, va donner naissance au fils de Satan. Un peu dark comme film. Mais savez-vous quoi? Pendant des mois de temps, ces Jesus freaks-là essayaient de témoigner à mes beaux-parents, puis tout ce qu'ils recevaient, c'est de la moquerie, puis toutes sortes de choses comme ça. Jusqu'au jour où ils sont allés cogner à leur porte, mes beaux-parents sont allés cogner à leur porte, parce que après avoir baigné puis exploré le monde des ténèbres, ou le royaume des ténèbres, si vous voulez, sont venus avec une conviction que si le royaume des ténèbres existait, comme ils le croyaient, ça voulait dire aussi que le royaume de la lumière existait. Puis ils ont commencé à vraiment avoir une réelle crainte du royaume des ténèbres, de Satan et de tout le monde occultiste. Ils sont allés cogner à la porte des Jesus freaks pour poser des questions à ce sujet-là. Puis les Jesus freaks leur ont témoigné au sujet de Jésus, puis ils sont éventuellement devenus chrétiens. Mais pas du jour au lendemain. Pas après quelques jours ou quelques semaines, peut-être même après quelques mois que ça a duré. Et vous, c'est juste une histoire pour illustrer comment, finalement, on a besoin de persévérer, de ne pas lâcher, de continuer à avoir cette vigueur maximale, cette communication claire, de prier pour que les occasions se présentent. Puis quand l'occasion se présente, de communiquer clairement l'Évangile, comme Dieu nous le demande, puis de ne pas lâcher, de continuer ces relations-là, ces contacts avec les non-croyants. Et vous allez voir, Dieu va faire un travail, même s'il n'est pas apparent à nos yeux. Puis de jamais lâcher cette espérance que Dieu va sauver ceux et celles pour qui on prie et envers qui on cherche à être un témoin de Jésus efficace. On va prier ce matin, si vous le voulez bien. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as donné l'Évangile à répandre, l'Évangile à vivre, Seigneur, avec toute la vigueur que tu nous donnes par ton Saint-Esprit. Tu désires, Seigneur, qu'on soit des lumières dans ce monde de ténèbres et tu nous donnes les occasions. Et tu vas au-devant de nous, Seigneur, tu prépares les cœurs. Et je prie ce matin qu'on puisse être un peuple qui a cette vigueur, cette communication et cette proximité envers les non-croyants. Et qu'on puisse voir de nombreuses personnes, Seigneur, venir à toi à cause de ta grâce, Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ta puissance. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.